Mathieu Bocoté, comment ça va?
Très bien, toi?
Très bien. Bravo pour le texte de la semaine dernière sur le pétrole. C'est rafraîchissant, puis on lit pas ça souvent dans la belle presse québécoise.
Ben, je sais pas, très honnêtement, j'ai l'impression d'avoir tenu un propos assez modéré. Hein. Qu'est-ce que je disais globalement? Au début des années 2000, quand la question du gaz de schiste est apparue, eh bien, il y avait, me semble-t-il, des arguments fort valables qui disaient ça va ravager globalement, ça va ravager la vallée du Saint-Laurent. Les risques environnementaux, écologiques sont trop élevés. La technologie n'est pas adaptée. Mieux vaut ne pas miser là-dessus, d'autant qu'on ne croit pas en avoir besoin. Donc, les circonstances à l'époque, moi, j'avais été convaincu par ça, puis jusqu'à tout récemment, je considérais que c'était un argument qui se tenait. Je pense que ravager la vallée du Saint-Laurent ne me semble pas un projet de société viable pour le Québec. Par ailleurs, quelque chose s'est passé.
Oui.
On nous explique, puis encore une fois, ça reste à voir, mais moi j'entends l'argument. On nous explique que la technologie a évolué suffisamment de manière significative, donc que les ravages attendus dans le passé ne seraient pas au rendez-vous aujourd'hui. Donc l'argument technique, l'argument technologique nous dit un instant, il faut mettre à jour notre réflexion. Deuxièmement, j'entends souvent dire, ça c'est un peu l'héritage de François Legault, il ne faut même pas explorer pour voir ce qu'on a. Ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que connaître minimalement l'ampleur des ressources disponibles ou non ne me semble pas être une idée extravagante. Puis troisième élément qui me semble déterminant, on vient de quitter un cycle qui était le cycle de la décroissance, le cycle de l'espèce de on allait congédier une fois pour toutes les énergies fossiles. Si ça avait été possible, tant mieux, mais manifestement ça ne l'est pas. Et dans ce cycle nouveau, le Québec apparemment a des capacités énergétiques réelles qu'il faut prendre au sérieux, c'est-à-dire dans le cycle nouveau, on voit ce qui se passe en Iran, on voit ce qui se passe au Groenland sur notre registre, on voit le fait que les États qui ont une capacité soit de pétrolière, soit de gazière, soit des énergies fossiles, c'est une richesse dont ils peuvent faire usage intelligemment s'ils le font. Donc devant tout ça, je ne pense pas que c'est abusif de dire est-ce qu'on peut remettre cette question-là au cœur du débat public. Je ne tranche pas, je n'ai pas les compétences techniques pour trancher, mais ce que je sais, c'est que les raisons pour lesquelles cette question était jugée fermée ne sont plus valables aujourd'hui.
Est-ce que tu as changé d'idée? Je n'ai pas pris la peine là, de faire l'exégèse de tous les textes écrits par Mathieu Bocoté depuis qu'il écrit des textes, là, quand même, mais est-ce que tu as évolué en la matière?
Oui, mais pour une raison simple, c'est que moi, au début, ce que je te disais au début des années 2000, quand on parle de. C'était la.
Tu écrivais dans le journal encore dans le temps, hein, je pense?
Non, début des années 2000, j'avais des tribunes ici et là, mais j'ai commencé dans le journal dans le 24 heures en 2010, dans le JDM en 2011.
Okay.
Et moi, globalement, à ce moment-là, je trouvais que les arguments avancés par ceux qui disaient on a peut-être ces ressources-là dans le pétrole, mais le prix à payer pour les exploiter serait trop élevé. Puis j'entends, moi, l'argument qui m'avait vraiment convaincu à l'époque, c'est nous allons saccager la vallée du Saint-Laurent. Et je considère que saccager l'espèce de patrimoine, non pas seulement de paysage, mais de patrimoine naturel exceptionnel qui est la vallée du Saint-Laurent, je le trouvais que c'était une idée dangereuse et sotte. Si on était aujourd'hui, imaginons qu'on ait le débat dans quelques semaines, puis on nous dit que finalement, ce qu'on nous dit sur les progrès techniques et technologiques qui permettent d'exploiter ces ressources-là, tout ça c'est du baratin, et finalement on va saccager la vallée du Saint-Laurent, je ne changerai pas de position. Mais le fait est que je constate que depuis un quart de siècle environ, on constate que ça a évolué significativement, que les Américains ont atteint l'indépendance énergétique, notamment par cela, qu'ils ont été capables de faire progresser la technologie pour ne pas saccager leur pays ainsi. Donc moi, si on m'explique, c'est ce que je crois comprendre, qu'il y a un progrès technologique tel qu'il nous oblige à mettre à jour notre vision de cette question-là, ben, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, je ne vois pas pourquoi on ferait un dogme religieux dans la non-exploitation potentielle des ressources naturelles, des ressources gazières.
Car Dieu sait que ce dogme-là, Mathieu, existe, tenu par ton grand ami, notre grand ami, que dis-je, Bruno Marchand, par cette frange-là anti-voiture, anti-transport en commun, tous azimuts, ou abandonner la voiture pour y aller avec ce qu'on appelle le dictat de la mobilité active. Marcher, 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 mais encore, là. Je veux dire, le Québec est grand, mais vive la marche, oui, mais vers la boulangerie, là. Moi, je peux pas marcher vers Matane, ça arrivera
non, mais,
pas, là.
Non, mais... C'est le contraste, hein, c'est-à-dire moi, à Paris, je sors de chez moi et environ 12 mètres plus loin, j'ai une boulangerie. Puis 15 mètres, j'ai une boucherie. Mais l'Europe et l'Amérique du Nord...
C'est ça.
Voilà, mais le fait est que l'Amérique du Nord n'a pas la même structure de développement que l'Europe.
C'est ça.
Ensuite, comme je dis, moi, j'ai pas d'opposition pressée pour transport en commun. J'ai pas d'opposition pressée pour faire le marché. Mais j'ai pas d'opposition pressée non plus à l'utilisation de la voiture. Et je constate que dans l'époque qui est la nôtre, puisque manifestement on ne sortira pas demain, ni après-demain, ni après-après-demain des énergies fossiles, si le Québec a le moyen, a des, de telles ressources, donc soit à l'île d'Anticosti, soit dans la vallée du Saint-Laurent, on le sait, si on a ces ressources-là, et si on entre dans un cycle qu'on n'est pas à la veille d'en sortir, eh bien, je vois pas pourquoi une forme d'indépendance énergétique serait à sacrifier, puis quitte à ce qu'ailleurs dans le monde, ils exploitent de telles ressources dont on a besoin. Donc, encore une fois, moi, j'arrive pas là sur le mode de l'ardent converti. Je constate simplement qu'il y a un blocage dans le débat public qui empêche d'aller plus loin pour savoir si on ne doit pas miser sur le développement de ces ressources-là, ah, oui ou non. Bon. L'espèce de blocage automatique me semble absurde. Le blocage automatique, c'est comme s'il y avait un dogme religieux. Puis, encore une fois, il y a cette espèce de discours de décroissance qu'on a hérité des années 90, mais surtout des années 2000. Ce discours de décroissance, il est aujourd'hui à quelque chose de folklorique là-dedans. Il sent le patchouli. Il a l'air complètement déconnecté de la réalité. Donc, dans le monde dans lequel on entre, eh bien, je ne vois pas pourquoi le Québec s'interdirait à l'avance l'exploitation de ses ressources s'il est possible de le faire intelligemment.
Qu'en est-il du PQ alors qui s'oppose à l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz? C'est toujours la même maudite position pour le PQ. Est-ce que le PQ doit se regarder dans le miroir et ajuster ces mesures-là? Parce que ça fera partie du programme du PQ, à moins qu'on m'indique que ce sera tout le contraire, là. Mais aux dernières nouvelles, mais c'est le dictat du PQ, mon cher Mathieu, là, actuellement. Là.
Bon, mais comme tu sais, moi, par ailleurs, si c'est la question que tu me poses, la question pour laquelle je vote d'abord et avant tout, moi, en politique québécoise, c'est l'indépendance du Québec et la question nationale. Donc, je préfère voter pour un parti avec lequel je serai en désaccord sur sa position énergétique, si par ailleurs, il souhaite l'indépendance de notre pays.
Bon, mais l'es-tu en désaccord avec le PQ à cet effet-là? Il me semble que tu l'es.
Alors, c'est plus compliqué, je pense que non. Je pense en ce moment, ils sont pas favorables à ça. Mais il y a une histoire d'une quinzaine d'années au PQ sur ça. Rappelle-toi de mémoire, en 2012, si je ne me trompe pas, Pauline Marois avait envisagé la possibilité d'explorer les possibilités gazières du Québec. Donc, la doctrine, entre guillemets, a évolué avec le temps. Là, je constate qu'aujourd'hui, Mme Fréchette à la CAQ envisage l'ouverture de ça, de ce débat. M. Drainville est très réservé. François Legault, lui-même, y était opposé. Le Parti québécois s'y dit opposé en ce moment. Donc, dans ce débat, je ne me sens le porte-parole de personne. Je me contente de dire qu'il me semble que d'un point de vue des intérêts du Québec, on devrait poser la question. C'est pas beaucoup.
Non, mais en toute humilité, tu serais très bien placé pour dire au parti qui veut créer un pays, il me semble qu'un Québec riche, ça serait pas vilain.
Voilà, mais je suis pas contre un Québec riche, on s'entend bien. Puis, par ailleurs, je pense que le Québec, à l'échelle des sociétés humaines, est une société prospère, avec ou sans...
Comparé à la Somalie, tu as raison, mais on pourrait l'être davantage.
Oui, mais comparé à plusieurs pays européens...
Fédéraux, pourrait...
Ça, c'est autre chose. Ça, je ne mélangerai pas les deux débats. Je ne pense pas qu'on est dépendant des subsides fédéraux. Je pense qu'on paie le prix d'une espèce de suradministration débile avec un palier provincial, un palier fédéral, une société écrasée par deux couches technocratiques.
T'as pas tort, mais là, on s'égare de la discussion.
Ben vraiment, parce que tu m'as dit un pays riche plutôt qu'un pays pauvre. Moi, je te dis que ce qui appauvrit le Québec, à mon avis, c'est en bonne partie la suradministration débile. Ce qui appauvrit le Québec, c'est que les politiques publiques, qui sont quand même utiles, sont pas faites en fonction du Québec, mais en fonction des intérêts de l'Ouest, de l'Ontario. Mais... Donc, moi, cette question-là, elle est plus vaste que la seule question.
Mais avec les programmes coûteux qu'on veut bien se donner, puis que les Québécois, aux dernières nouvelles auxquelles ils adhèrent, donc des programmes chromés, on va se le dire, une social-démocratie somme toute assez lourde, un État lourd, un État même en kilosé, très coûteux, on est menotté, on s'est auto-menotté à un moment donné. N'est-il pas temps de se défaire des menottes? C'est ça le point?
Moi, je pense que partout en Occident, on constate que la social-démocratie classique a fait faillite. On le constate. L'endettement des États est absolument monstrueux. La structure des programmes sociaux n'est pas adaptée à la structure démographique de nos sociétés. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Donc ça, c'est un débat à part entière qui peut se tenir en Suède, en Norvège, au Portugal, partout. La question de l'État social. Deuxièmement, il y a la question fondamentale que tu évoques, qui est importante, c'est-à-dire dans quelle mesure on doit mettre à jour notre logiciel intellectuel sur l'utilisation des ressources naturelles que nous avons. Très bien. Troisième élément, mieux, est-ce que les Québécois doivent se gouverner par eux-mêmes ou se faire gouverner par l'Ontario, l'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan?
C'est une troisième question.
Ah ben oui, si je peux me permettre, elle est importante. Oh, oui, elle est importante parce que décider que les deux premières sont importantes, que la troisième ne l'est pas, consiste à avoir une réflexion amputée.
Non, il faut réfléchir à ça. Je pense que le PQ a un rendez-vous avec lui-même. C'est ça que je dirais, moi. Parce que le PQ a une position très dogmatique sur la verdoyance. Et je pense qu'il a un rendez-vous avec lui-même.
C'est pas que le PQ, si je peux me permettre. C'est tout le débat. C'est l'ensemble de la société politico-médiatique québécoise.
Et le commentariat, Mathieu, et le commentariat aussi.
Oui, oui, quand j'ai dit classe politico-médiatique, je mets ça là-dedans. Oui, oui, donc, oui. Il y a eu une espèce de consensus imposé, et dès lors qu'on veut rouvrir la question, on nous dit que ça a déjà été tranché. En démocratie, des questions tranchées une fois pour toutes, il n'y en a pas tant que ça, puis ça, c'en est pas une. Donc, c'est pour ça que là-dessus, le débat public a été confisqué par une tendance assez radicale de la mouvance écolo. Je pense qu'on a tout intérêt comme collectivité, souverainiste, fédéraliste, gauche-droite, tout ça, à, comme je dirais, à mettre à jour le logiciel. Et de ce point de vue, la confiscation du débat public par les écolos radicaux, qui fondamentalement sont hostiles à toute forme de... En fait, qui n'acceptent pas la réalité du monde dans lequel on est, puis le rapport à l'énergie, eux, ils ont paralysé le débat public. Et si je peux me permettre, mon collègue que j'aime bien, Thomas Mulcair, à l'ajoute, n'est pas un indépendantiste ardent proche du Parti québécois. Eh bien, pourtant, il est partisan de ce dogme. Donc, mettre le dogme simplement sur le dos des souverainistes, des indépendantistes, des nationalistes, non, je pense que c'est une erreur d'analyse.
Et en terminant, juste pour faire un petit détour sur les élections françaises, on a vu qu'il y a un florilège d'écolos qui se sont fait élire et des bons gauchistes green qui se sont fait élire dans les grandes villes françaises. Qu'est-ce que ça t'indique, toi, à Paris, entre autres, évidemment?
Les écolos ont perdu. Ils ont perdu leur grande ville, sauf Lyon. Donc, ils ont perdu Bordeaux, ils ont perdu leurs autres grandes villes qu'ils avaient conquis. Ce qu'on voit plutôt, par ailleurs, c'est le retour davantage des socialistes. En fait, c'est des espèces de gauche unie au municipal.
OK, mais je voyais le nouveau maire en ce qu'on appelle en Bessèque à pédale, qui est un peu l'héritier d'Anne Hidalgo, donc c'est
Emmanuel
la poursuite
Grégoire.
Du régime.
Alors, Emmanuel Grégoire, c'est un socialiste, donc il y avait avec son socialiste des écolos, des communistes et tout ça. Donc ça, c'est... Mais lui, c'est un socialiste. Oui. Les écolos qui gouvernaient des villes comme, par exemple, Bordeaux, eux se sont fait battre souvent parce que la population en avait marre des gens qui étaient des artistes. Tu sais, des gens qui sont officiellement des écolos, qui sont soucieux de notre environnement, puis finalement, c'est les obsédés du multiculturalisme et de l'écriture inclusive. Oui. Donc, eux se sont souvent fait battre. À Paris, cela dit, c'est autre chose. En fait, c'est Boboland, c'est-à-dire la ville de Paris, mais tout comme un peu partout, les grandes villes aujourd'hui deviennent sociologiquement prisonnières de la gauche, et puis je ne vois pas comment ça pourrait changer, parce qu'ils ont tout du logement social, à la guerre contre les familles, à la guerre contre les voitures, au multiculturalisme officiel, tout ça, ils ont créé les conditions pour que la base sociologique de droite quitte la ville. Puis maintenant, Paris est une ville, je dirais, pour longtemps qu'on a gagné par la gauche.
Comme Montréal, point d'interrogation?
Je crois. À Montréal, à la rigueur, il pourrait avoir le fond affairiste un peu, les classes moyennes, sans, comment dire, le côté, ce que Denis Coderre prétendait incarner. Mais toujours ce pôle-là finit par s'écraser d'une manière ou de l'autre. Et aujourd'hui, ce qu'on a à Montréal, c'est la poursuite, quoi qu'on en dise, bien qu'elle le dise autrement, de Valérie Plante. Madame Martinez, c'est une femme de qualité, j'en doute pas. Mais son programme, sur le fond des choses, c'est une progressiste. Il manque juste le folklore de Projet Montréal, mais le programme est à peu près le même.
Mathieu, toujours un plaisir.
Au plaisir, bye-bye.
Bye-bye, 7h58, 418-670-9098.
Tu sais que la Ville de Québec aussi...
Et la Ville de Québec. Mathieu, ouais. Je voulais faire quand même rester dans un ordre grandeur. Mais... c'est la deuxième plus grande ville française dans le monde, Montréal. Là.
La Ville de Québec prône l'écriture inclusive aussi.
Là. Ah oui?
Ah oui. Ils peuvent plus écrire monsieur, madame, c'est des personnes.
Dans les communications?
On me rapporte ça à l'instant.
Ah oui?
Tu sais, les maires, je comprends l'histoire des maires socialistes puis le Parti socialiste qui est revenu, mais il reste qu'il y a eu des fusions de listes électorales avec LFI puis avec les écolos dans la majorité de ces villes-là. Là.
C'est complexe, là.
Donc, oui, c'est ça, c'est complexe parce que les villes, c'est les mêmes partis que le pays en France. Ben, c'est un peu comme les États-Unis, là, des maires démocrates, des maires républicains. C'est la même chose en France. Mais en France, il y a comme deux tours puis il y a des fusions de listes électorales qui se font entre les deux tours. Puis LFI, les écolos, ont beaucoup fusionné leur liste électorale avec les socialistes. Grosso modo, les woke sont rendus avec le Parti socialiste.
Coudonc. OK.
Et puis, on parlait du gaz. Oui. Cette nouvelle-là est quand même assez importante parce que ça.
Absolument.
Il y a bien du monde qui sont impliqués, là. Ça se peut que votre déneigeur vous envoie une facture.
Oui. Faisant mention, ça, c'est dans le journal de ce matin. Il
ouais.
Faudrait pas se surprendre.
Il y a des compagnies de déneigement.
L'an prochain, ça va vous coûter plus cher, même si le diesel baisse en passant.
Mais attends un peu. Cette année, là, il y a des compagnies qui se réservent le droit. Ils annoncent une bonne bordée de neige demain. Il y a des compagnies qui se réservent le droit de renvoyer une facture de 15, 20, 25, 30 piastres. Jusqu'à date, il y a 15 piastres accumulées avec la neige ramassée depuis...
Pardon? Même si c'était un contrat annuel, il y aurait une extra facture.
Il y a des compagnies qui mettent une clause prix d'essence. Et si vous avez cette compagnie-là, comme dans la région de Québec, il y en a une, c'est Le Beau Gazon Déneigement. qui pourraient voir une transaction d'environ 20 $ apparaître sur leur relevé de carte de crédit si jamais vous faites affaire avec eux autres, parce qu'il y a une clause sur le contrat qui dit si le gaz de diesel augmente de plus de 2 piastres, on va vous le charger. Mais en même temps, dans le même texte, t'as Sam L'Extérieur, qui est lui dans le coin de la Rive-Nord de Montréal. Lui, quand il a vu que le détroit d'Ormuz fermait, il a pris ses tanks puis il s'est fait une réserve de diesel pour pas charger d'extra à ses clients.
Il était brillant, lui. Sam.
Faites comme Sam Extérieur.
Sam Extérieur, ça s'appelle le même.
Ben oui. Mais il y a plusieurs compagnies.
Mais les grosses compagnies, tu sais, prenons SAESSA, qui est une grosse compagnie qui fonctionne très, très bien à Québec, qui sont partout dans le commercial comme dans le résidentiel. Je pose la question comme ça, à brûle pour point. Peut-être avoir la réponse. Allez-vous surcharger? Ça m'étonnerait, Dan. Ça m'étonnerait. Ça va crier. Mais si ça arrive.
Tu vois, la compagnie de Montréal qui fait ça, ça a l'air d'être une pas pire compagnie parce que lui, il va charger 15 piastres par client, puis ça va lui rapporter 50 000 $.
Faut pas faire ça. Ça monte et ça descend. Et ça va descendre?
Oui, ça va redescendre.